Conversation avec un article. 13e épisode. Déjà, le principe, un compte-rendu d'articles scientifiques récents publiés dans une revue en sciences humaines et sociales.
Et merci à ma mère de passage à Nantes. Aujourd'hui, un chouette article publié le 2 juillet 2020 dans la revue New Media and Society. Il a été rédigé par Berit Rentzer, qui est en doctorat à l'université de Tallinn en Estonie, et Catherine Tidenberg, maîtresse de conférence dans la même université et directrice de thèse de Berit Rentzer. Leur article porte sur des groupes de sorcières identifiés sur Facebook, sur l'exportation de rituels dans les espaces numériques et plus globalement sur les transformations de la religion. Alors sur les sorcières, il y a un engouement actuellement en France, notamment dû au livre de Mona Chollet qui a connu un grand succès et qui portait sur ce sujet. Mais c'est une vieille question en fait, travaillée depuis un moment par les universitaires et les féministes des années 70. Je pense bien évidemment à la philosophe, à l'activiste, à la sorcière Starock, qui livre depuis des dizaines d'années de beaux textes, puissants je trouve littérairement, et qui formule des propositions différentes avec d'autres, en matière d'écologie, d'économie, d'institutions, d'interaction, de gouvernance. Précisément parce qu'elle s'autorise à penser autrement, en recourant à des techniques spécifiques, et en réinvestissant des formes culturelles et cognitives délaissées ou minorées, comme l'hypnose, la prière collective, la réinvention de rituels, etc. Je pense aussi à cette belle anthologie de textes rassemblée par Emily H. dans Reclaim, recueil de textes écoféministes, avec une importante préface, qui mentionne notamment le travail des sorcières qui peuvent être néo-païennes comme Starock, mais également chrétiennes, juives, musulmanes, athées, agnostiques. Ce n'est pas un mouvement homogène. En ce moment, je suis également en train de lire Caliban et la sorcière de Silvia Federici, qui montre bien comment la figure de la sorcière aurait permis au capitalisme de s'édifier, de se développer en soumettant, en ruinant, en assassinant, en torturant des femmes et leur lignée pendant des siècles. Bon, c'est une thèse qui se discute, c'est pas mon rôle ici. Je me demanderai juste pourquoi des tas d'individus, de femmes se disent aujourd'hui sorcières, parfois sorciers, alors que c'est un qualificatif qui a servi historiquement à les dénigrer et à les détruire. C'est un cas emblématique de retournement de stigmate, d'inversion de la charge. En reprenant à leur compte ce terme, les femmes le réinvestissent, refusent d'être des boucs émissaires, proposent une contre-histoire de nos sociétés, réhabilitent des penseuses, proposent de nouveaux concepts, désignent les véritables coupables. La sorcellerie capitaliste, pour citer Isabelle Stengers, le néolibéralisme, le colonialisme, le patriarcat, l'extraction et la destruction des ressources, la haine des corps non conformes, etc. Autrement dit, la sorcière est devenue une fonction, un mode d'existence qui caractérise toutes celles et tous ceux qui refusent les dominations et les limitations, les assignations identitaires, qu'elles soient économiques, raciales, genrées, sexuelles, territoriales. Les sorcières réparent, régénèrent et réinventent le monde en nous proposant de nouvelles manières de penser ou d'interagir entre nous et avec tout ce qui vit et meurt. Mais ce n'est pas non plus une fonction homogène. Elle reçoit des instanciations très différentes selon l'histoire, les espaces géographiques, les classes et les individus qui s'en emparent. Ces questions ne sont pas vraiment abordées par les deux autrices de l'article. Elle s'intéresse plutôt aux rituels magiques des sorcières contemporaines et à la manière dont elles les exportent sur Facebook en tirant parti ou en tenant compte de cet espace spécifique de communication. Ce qui les intéresse également, c'est la manière dont se constitue ce qu'on pourrait appeler un éthos de sorcière, comment des membres reconnus comme sorcières le sont et sont élevés à ce rang, comment sont-elles habilitées, comment se présentent-elles, bref, comment devient-on sorcière et quelle autorité ce titre confère-t-il dans un espace comme Facebook ? Pour répondre à ces questions, que j'ai reconstituées à partir du propos de l'article, les deux chercheuses ont mené leur enquête en Estonie. C'est un terrain fertile où le néo-paganisme est très présent manifestement. On y trouve une grande variété de pratiques syncrétiques qui répondent à des besoins individuels, à une époque post-soviétique où les grandes idéologies se sont effondrées. En Estonie, les grands médias consacrent aujourd'hui des rubriques aux questions spirituelles et à l'ésotérisme. Le terme sorcière n'a aucune connotation péjorative, il désigne quelqu'un avec des pouvoirs surnaturels qui peut utiliser différentes techniques, potions, runes, tarots, pour accéder à d'autres ordres de réalité ou pour rendre des services à des individus non initiés. Facebook y est très populaire, semble-t-il, où certains groupes de guérisseurs, sages, néo-païens, néo-panéennes, chamans, peuvent atteindre 20 000 membres. Les deux chercheuses ont mené leur enquête sur trois groupes Facebook de janvier à mai 2018 et ont complété leurs observations avec 5 entretiens en estonien, chez des sorcières ou dans un lieu public. Les deux chercheuses leur ont demandé d'évoquer leurs pratiques et les rituels qu'elles exécutaient au quotidien, la chiromancie, l'astrologie, les cartes, les runes, les conversations avec les morts, et leur ont également demandé comment elles exportaient ces pratiques sur Facebook. Pour identifier ces sorcières, les deux chercheuses se sont appuyées sur l'administrateur du plus grand groupe de sorcières connues en Estonie. Cet administrateur leur a indiqué les vraies sorcières de son groupe et d'autres groupes. Et on verra sur quels critères s'édifie l'authenticité des sorcières, c'est l'un des enjeux de l'article. Les noms des sorcières et des groupes ont été anonymisés ou modifiés, ce qui a permis aux deux chercheuses de citer librement la parole des sorcières en l'articulant à des captures d'écran, de statuts Facebook ou de commentaires. Pour travailler toute cette matière très riche, les deux chercheurs se sont appuyés sur une théorie, la figuration communicative, qui considère que tout phénomène de communication, se parler, envoyer un message sur Facebook, est un tissage de pratiques, d'acteurs, de publics, de dispositifs, de textes, de formes médiatiques, d'opportunités et de détournements. Je suis arrivé au bout de la phrase. On va voir ce que tout ça veut dire à partir des résultats des autrices de l'article qui proposent trois niveaux d'analyse permettant, selon elles, d'étudier le néopaganisme en ligne. Pour les deux chercheuses, d'abord, ce terme désigne un ensemble de spiritualités qui renouent avec des pratiques spirituelles ou religieuses plus anciennes, souvent articulées entre elles. Ce néopaganisme se caractérise par l'absence d'un texte normatif, par un modèle non hiérarchique d'interaction entre les individus, par le respect du choix individuel, par la recréation de rituels, par la solidarité entre membres et par la reconnaissance que la terre est sacrée. Alors comment ce néopaganisme estonien s'incarne-t-il sur Facebook? Comment tire-t-il parti de cet espace de communication? Et comment les rituels et mythes des sorcières se transforment-ils avec, contre ou grâce à Facebook? Selon les deux chercheuses, pour répondre à ces questions que je reconstitue là encore, trois niveaux d'analyse sont à prendre en compte. Elle sépare la présentation de ces niveaux et les résultats, mais dans un souci de clarté, j'ai réuni les deux. Le premier niveau d'analyse est ce qu'elles appellent le cadre de pertinence, c'est-à-dire le sujet principal qui guide les pratiques de communication. Ici, c'est assez simple, c'est le néopaganisme et toutes les thématiques qu'il recouvre. Les deux chercheuses observent dans les groupes Facebook estoniens un néopaganisme dit éclectique qui fait l'objet d'une petite tension, plutôt d'une négociation. Je m'explique. Dans les groupes étudiés où l'on parle estonien, anglais, russe, le néopaganisme puise manifestement dans de nombreuses traditions, les croyances populaires autochtones, les religions monothéistes, les traditions religieuses orientales, le New Age. Grâce au dispositif de communication, Facebook ici, les usagers dits ordinaires qui demandent des conseils sur leur vie peuvent cependant façonner les thématiques à partir de leurs likes, de leurs commentaires et de leurs partages, leurs actions, fabriquent donc de l'espace, l'éditorialisent et orientent les conversations. De la même manière, les algorithmes peuvent prioriser certains sujets et inviter implicitement les membres à rediscuter ou à reposter les mêmes sujets de conversation. C'est par exemple le cas des rituels du solstice d'hiver qui sont devenus des marottes des groupes de sorcières, en tout cas en Estonie. Face à cette standardisation et face au syncrétisme, certains membres tiennent cependant à conserver leur singularité ou à revendiquer l'héritage estonien tout en accueillant les membres qui parlent russe ou anglais. Ce qui les amène à remixer le patrimoine estonien, ses pratiques spirituelles, en les articulant à des pratiques attendues sur ce type d'espace ou plus à la mode. Les deux chercheuses ne développent pas plus ce point que je trouvais intéressant personnellement. Deuxième niveau d'analyse, la constellation des acteurs et actrices qui communiquent entre eux à partir du cadre de pertinence. Ici, il s'agit tout simplement des sorcières aspirantes ou autoproclamées, mais également des usagers ordinaires en quête de conseils ou de membres problématiques. Tous ces acteurs-actrices sont interdépendantes, c'est-à-dire que leur statut, que leur pratique de communication dépend de leurs interactions et du dispositif sur lequel ils et elles échangent des signes. Pour les deux chercheuses, la question principale est de comprendre comment l'autorité de ces membres est attribuée, interprétée et revendiquée, et comment elle s'appuie, c'est là que c'est intéressant, sur Facebook. Plus précisément, pour ces groupes, l'enjeu est de savoir qui est fiable ou pas et de déterminer des critères de fiabilité. Facebook, son dispositif, suggère d'abord un type d'organisation qui repose sur des administrateurs tristes, des modérateurs tristes et des membres. Les administrateurs tristes sont ceux et celles qui créent le groupe sur Facebook. Les modérateurs tristes peuvent être nommés par des administrateurs tristes. Les membres sont les usagers dits ordinaires, qui peuvent être des sorcières ou des individus qui demandent des conseils sur leur vie, sur des choix à faire rapidement. Comme l'expliquent les deux chercheuses, les futures adhérentes du groupe doivent répondre à quelques questions basiques pour y rentrer. C'est classique des groupes Facebook et du fonctionnement social sur le web contemporain et historique d'ailleurs. L'adhésion est relativement simple, mais bon, bah, tout dépend en fait, me semble-t-il, des thématiques, des espaces de communication, des pratiques de chaque groupe et notamment de leur rite d'interaction et d'initiation. J'évite vraiment l'essentialisation, hein. Ici, l'enjeu principal est de repérer les usurpateurs-trices, c'est-à-dire les charlatans. Charlatantes, je ne sais pas si ça se dit. Yalla, ça passe, comme dirait ma mère. Les sorcières autoproclamées sans compétences réelles qui facturent leurs services, qui sont excessivement négatifs, qui vendent des médicaments ou qui tentent d'abuser sexuellement certains membres. Pour juguler ces risques, les administrateurs tristes exploitent Facebook d'une certaine façon. Ils et elles tirent parti des opportunités inédites ou des affordances de ce dispositif. Par exemple, en plaçant en tête du groupe un statut fixe, épinglé comme on dit, qui propose une liste de sorcières ou de conseillères agréées dont les compétences sont bien identifiées, communiquées avec les morts par exemple. Plusieurs méthodes de vérification existent selon les groupes, la lettre de motivation qui expose les compétences de la sorcière et son expérience en matière de conseil. Dans d'autres cas, une liste de prétendantes est proposée sur le groupe et l'ensemble des membres du groupe statuent en fonction de leur recours au service de la prétendante ou du prétendant. Troisième et dernier niveau d'analyse, les pratiques et le dispositif de communication lui-même. Il s'agit ici des pratiques rituelles et de conseils qui sont adaptés, déplacés, transformés quand elles passent sur Facebook dans un subtil fondu enchaîné. Les membres font avec l'espace de communication, avec ses règles et ses opportunités. Par exemple, certaines sorcières sur certains groupes font des séances collectives de tirage des cartes. Les membres posent des questions dans les commentaires d'une thématique qu'elles lancent et une sorcière répond individuellement à chaque membre après avoir défini la durée de la séance collective, sa modalité de communication. Réponse par live, vidéo ou à l'écrit. Mais vu le nombre de demandes, elles ne peuvent tirer qu'une carte par personne, ce qui conduit à innover pour gérer ce type de conflit. La malléabilité temporelle est l'une des possibilités identifiées par les deux chercheuses. Elle permet aux sorcières de répondre de manière synchrone pour gérer plusieurs demandes à la fois dans les chats privés par exemple. Les sorcières de haut niveau interviennent peu dans les discussions entre membres, elles fournissent plutôt des réponses qui ne font pas manifestement, l'objet d'une discussion. On pourrait qualifier ça de maîtresse de vérité, hein, pour reprendre un titre de Marcel d'Etienne, « Les maîtres de vérité dans la Grèce classique ». Ici, on a des avatars contemporains de ces maîtres, de ces maîtresses. Ce qui me fait dire que s'engager d'une certaine manière, ici, en mobilisant une certaine forme, le commentaire, le statut, le chat privé, révèle un statut au sein du groupe. Dans ce dernier niveau d'analyse, les pratiques et le dispositif de communication, on trouve d'autres éléments intéressants identifiés par les chercheuses. D'abord, la manière dont le stockage et la recherche au sein de Facebook requalifient ou reconfigurent les pratiques de sorcellerie. Par exemple, les membres peuvent revenir sur des discussions précédentes, renvoyer à un commentaire qui a déjà trouvé une solution, reprendre des conversations où elles s'étaient arrêtées ou réinterpréter des lectures antérieures à l'aune d'événements récents. Les pratiques de sorcellerie s'articulent donc à la raison graphique, c'est-à-dire aux possibilités inédites offertes par l'écrit et notamment par l'écrit informatique, stocker, revenir en arrière, partager, faire surgir un ancien statut pour le mettre en tête du groupe, etc. Autre opportunité offerte par le dispositif et qu'ont découverte les sorcières, ce qu'on pourrait appeler la distribution d'indices sociaux. Quand vous allez chez une sorcière, vous trouverez des indices de sa pratique ou de son statut. Les espaces de vie indiquent où on est grâce à des signes disséminés qui peuvent être plus ou moins visibles ou lisibles d'ailleurs, du signe stéréotypé que tout le monde ou presque reconnaîtrait, des cartes de tarot sur une table, jusqu'à la culture d'un potager avec des plantes médicinales spécifiques. Sur Facebook, les sorcières utilisent des photos et des références textuelles pour indiquer où se trouve l'usager en s'adaptant à la culture numérique. Les deux chercheuses repèrent ainsi un mème humoristique, c'est-à-dire une image ou une vidéo qui a circulé avec un grand succès sur les réseaux. Je précise pour mon père qui écoute mes podcasts. Dans un des mèmes présents sur l'un des groupes, on voit ainsi une femme nue assise sur un rocher avec un balai et un chat noir. En bas de l'image, on trouve la légende suivante, en russe, « Je suis un ange promis, c'est juste que le balai est tellement plus rapide. » Ici, les sorcières jouent avec les stéréotypes qui servent à les qualifier, à les reprendre donc à leur compte pour engager un type de communication avec leurs membres, partage de sorts, conseils en phytothérapie, observation sur le monde. Les discussions sont assez ouvertes, mais excluent cependant les conseils médicaux et les vidéos qui relèveraient d'une culture jugée trop mainstream. Enfin, les sorcières peuvent utiliser leur nom réel ou recourir à des pseudonymes pour se protéger et séparer les activités de leur vie, ce qui relève d'une forme de ségrégation des mois en fonction d'espace, comme dirait mon amoureux Goffman. Alors voilà pour l'article que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Un grand merci aux deux collègues chercheuses qui ont mené cette enquête, si elles tombent par hasard sur ce podcast et qu'elles comprennent le français. Quelques remarques cependant, comme à mon habitude. Premièrement, et c'est ce qui m'étonne, la sorcellerie est traitée comme n'importe quelle pratique rituelle. Le modèle d'analyse utilisé aurait pu être le même pour un autre rite d'interaction, les sportifs sur Facebook par exemple. Il existe aujourd'hui d'innombrables études anthropologiques sur ces plateformes et la manière dont elles sont réinvesties d'un point de vue interactionniste et ritualisé. Et c'est un peu dommage, je trouve, et paradoxal pour une raison simple. Certaines féministes, certaines sorcières ont mené une critique obstinée du patriarcat, du colonialisme, du capitalisme et du néolibéralisme. Je ne veux pas caricaturer encore une fois, ce n'est pas un mouvement homogène. Hors d'état de recherche aujourd'hui montrent bien les rouages économiques, capitalistes sur lesquels fonctionne une plateforme comme Facebook. Par conséquent, comment expliquer que des sorcières dites néopaliennes officient sur une plateforme qui a manifestement toutes les caractéristiques qu'elles réprouvent ? Pour créer un groupe, on l'a vu, il faut créer des hiérarchies, mettre en place des statuts, désigner des distinctions de niveau. Alors, on peut répondre de plusieurs façons, formuler plusieurs hypothèses en invoquant par exemple la capacité du capitalisme à intégrer ses opposants, à se retourner, à muter pour les absorber. C'est l'une de ces ruses classiques et le développement personnel aujourd'hui des rayons Fnac l'incarne merveilleusement bien. On peut aussi penser qu'il existe très probablement une interrogation des sorcières sur les groupes Facebook et qu'elles ont choisi d'organiser la résistance à l'intérieur d'un système problématique, technique du cheval de Troie, mais là il faudrait d'autres groupes pour pouvoir comparer, ou se concentrer sur certains observables et donc mener une théorisation un peu plus nourrie du point de vue des écoféministes ou des mouvements féministes qui sont reliés à la sorcellerie. On peut aussi penser qu'on n'a pas à charger les gens de causes qu'ils ne veulent pas endosser et que les rituels qu'ils pratiquent sont une manière de résister, peu importe le dispositif de communication d'ailleurs. Dans tous les cas, je trouve que la question méritait d'être posée et aurait peut-être mérité une articulation avec les théories critiques de l'école de Francfort, du matérialisme historique ou du féminisme intersectionnel. Deuxième et dernière remarque, à la lecture de l'article, on a l'impression que toutes les pratiques des sorcières, tarot, runes, hypnose, etc. sont folkloriques et anecdotiques. on a l'impression, enfin j'ai eu l'impression qu'il y avait d'un côté la grande sorcellerie des théoriciennes qui s'oppose au colonialisme, au patriarcat, à l'extractivisme, et de l'autre les petites pratiques magiques. Or, ces deux niveaux sont parfaitement reliés, elles relèvent de la divination, c'est-à-dire d'un ensemble de pratiques, de méthodologies alternatives, permettant de lire différemment dans le monde des signes. Les historiens de l'Antiquité l'ont bien montré, je vous mettrai des références. Ces pratiques relèvent également de la rêverie ou de l'imagination active, imaginale, pour reprendre Henri Corbin ou Bachelard, qui permettent de modifier très légèrement la conscience pour envisager des scénarios alternatifs à plusieurs échelles. J'utilise personnellement une partie de ces techniques, l'auto-hypnose par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces petites pratiques micro-situées, l'hypnose, le rêve, le tarot et j'en passe, ouvrent un nouvel espace épistémologique. Il n'y a pas lieu de les folkloriser, de les marginaliser ou de considérer qu'elles masqueraient la grandeur de la sorcellerie, plus intellectuelle, plus théorique. Ces petites pratiques, ces rituels sont aussi la grandeur des sorcières, quand elles ne sont évidemment pas captées et réduites par l'industrie du spectacle. Je m'arrête là. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast, sur SoundCloud, sur YouTube et peut-être Spotify. Je crois que je me suis inscrit dernièrement.